Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
20h sur CNews dans un instant, c'est face à Rioufol avec Yvan Rioufol bien sûr et Véronique Jacquier. Mais avant cela, le point sur l'information, Isabelle Piblot.
La Convention citoyenne se prononce en faveur d'une aide active à mourir, mais sous condition. Le discernement du patient et son accompagnement approfondi doivent rester essentiels. Le chef de l'État indiquera la suite qu'il entend donner à cette réflexion sur l'euthanasie. Emmanuel Macron ne s'est pas avancé publiquement sur le sujet. Il recevra demain les participants à la Convention citoyenne. Pour ou contre les trottinettes en libre service, les Parisiens ont été appelés aux urnes pour trancher sur l'avenir de ces engins, accusés d'être dangereux. Quelle que soit l'abstention, Anne Hidalgo s'est engagée à respecter l'avis des électeurs. Les bureaux de vote ont fermé il y a près d'une heure. Les résultats sont attendus vers 22h. Et puis soulagement pour de nombreux pêcheurs, la Commission européenne renonce à interdire d'ici à 2030 le chalutage de fond dans les aires marines protégées. La mesure avait été annoncée le 21 février, suscitant l'inquiétude des pêcheurs européens. Nombreux s'étaient mobilisés pour protester ces derniers jours, notamment dans l'ouest de la France.
À la une de face à Rioufol, les jours passent et les crises se succèdent. La colère contre la réforme des retraites prend désormais une autre forme, moins coordonnée, plus radicale. L'ultra-gauche s'en donne à cœur joie dans les rues de Paris, Nantes, Rennes ou encore Bordeaux. Et face à ces scènes de chaos, l'exécutif sort la carte de l'ordre sans convaincre. Mais à qui profite la crise? Peut-il y avoir un gagnant dans cette séquence? On en parle dans un instant. Les raisons de la colère sont multiples, mais un seul homme semble cristalliser les tensions, Emmanuel Macron. L'homme ou peut-être la fonction d'hyper-président. Certains lui reprochent d'agir seul contre tous. La première ministre exécute à coup de 49-3. Et si le problème venait de notre constitution, la 5e République doit-elle faire peau neuve? Ou est-ce la seule chose stable dans un pays qui vacille? Élément de réponse dans cette émission. Enfin, Yvan, vous recevez ce dimanche David Lisnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, à l'heure où les Républicains se déchirent, marchent en ordre dispersé. Et si c'était lui, l'homme qui allait sonner le réveil de la droite, voilà le programme face à Rioufol. C'est parti avec Yvan. Cher Yvan, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Véronique. Et on va commencer, puisqu'on attend d'une minute à l'autre.
Ben oui, David Lisnard est en retard. Il faut tout dire.
Je crois que c'est un coup, comme d'habitude, d'Anne Hidalgo. C'est la circulation.
Il est bien possible.
Il est bien possible que ça soit cela. Mais avant cela, parlons de la crise politique. Je l'entends.
Le voilà qui... Ah non, le voilà
j'entends
qui arrive.
Peut-être les
voilà
pas. Il arrive. David Lisnard arrive sur notre plateau.
Vous faites une entrée de star.
Monsieur le maire, merci d'être avec nous. Président de l'Association des maires de France. Président du groupe politique Nouvelle Énergie. Maire de Cannes. Il faut citer aussi ce livre de Quentin Auster, le réveil de la droite. Et si c'était lui? Cher Yvan, normalement, c'est en deuxième partie que nous avons votre invité, mais là, vous avez décidé de l'avoir dès la première partie. Pourquoi inviter aujourd'hui David Lisnard?
Mais je fais parfois des exceptions, effectivement, pour inviter des hommes politiques qui me semblent avoir une certaine envergure, en tout cas qui ont l'ambition de jouer un rôle politique dans les années à venir. Et David Lisnard fait partie de ceux qui sont des hommes politiques assez peu connus, qui se font remarquer d'abord parce que c'est un homme de terrain, c'est un homme d'action, c'est un homme de réflexion également, et c'est un homme d'ambition. On voit bien qu'il se projette un peu, dans le fond, dans les Républicains, pour être celui qui pourrait peut-être saisir le drapeau. Et donc, pour toutes ces questions, il m'a semblé intéressant de vous entendre sur les différents sujets. Donc, vous allez participer avec nous et avec Véronique, dans première partie, aux divers sujets que nous allons aborder, mais très rapidement, s'il vous plaît. Et en deuxième partie, sur 20 minutes, je vous interrogerai plus en profondeur sur
la
vos visions.
On va commencer justement avec les crises qui se succèdent aujourd'hui. Et la question qu'on se pose, c'est à qui profitent ces crises? En l'état actuel des forces en présence, à qui profite la crise politique ouverte, notamment par cette contestation sociale sur la réforme des retraites, Yvan?
À qui elle profite? Écoutez, si j'étais photographe, si je faisais la photographie de l'instant, je dirais que cette crise, naturellement, a mis en scène l'intersyndicale et que l'intersyndicale a bien joué, dans le fond, dans la réhabilitation d'une sorte de d'utilité qu'elle avait eu à canaliser des colères. Mais surtout, il y a trois grands groupes qui apparaissent, dans lesquels n'apparaît pas pour l'instant le Parti républicain, pardon. C'est-à-dire, vous avez la NUPES, vous avez Renaissance, le parti présidentiel, et vous avez le Rassemblement national. Et le vainqueur est l'indésirable. Les sondages le disent, c'est-à-dire que le vainqueur, eh bien, le Rassemblement national, c'est lui qui tire les marrons du feu. C'est lui qui, malgré qu'il ait été le paria de ces grandes manifestations, peut se dire le vainqueur. Et d'ailleurs, les sondages, un sondage du journal du dimanche de la semaine dernière, le donnait vainqueur s'il y avait des législatives à 26%. Et on voit bien que l'aura de Marine Le Pen s'est consolidée. Donc elle peut dire merci à Emmanuel Macron, à son entêtement, bien sûr, et à son entêtement dogmatique sur les retraites. Elle peut dire merci aussi, dans le fond, aux leaders de la CFDT qui avaient exclu du rang des manifestations tous les représentants du Rassemblement national. Et puis, elle peut dire merci, bien entendu, également à Jean-Luc Mélenchon, qui, au prétexte d'insoumission, s'est tout de même caricaturé, on y reviendra peut-être tout à l'heure si on a le temps, s'est caricaturé dans une violence qui peut faire peur. Donc, cette manifestation syndicale qui prétendait canaliser à son seul profit la colère, on voit bien que c'est une colère qui lui échappe, c'est une colère qui devient populaire, c'est une colère populaire qui se retrouve au cœur même de l'électorat du Rassemblement national, ce qui n'est pas fait pour nous étonner, parce que l'électorat du Rassemblement national est un électorat effectivement populaire et un électorat d'actifs. Mais quand vous avez le discours présidentiel qui nous dit qu'il n'y a pas d'alternative, naturellement, c'est de l'autoconviction, parce qu'on voit bien que l'alternative, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, je suis photographe de l'instant en l'occurrence, et l'alternative, c'est bien, pour l'instant, le Rassemblement national, ce qui explique que le président de la République ne se bousculera pas pour annoncer une dissolution, parce que s'il y avait une dissolution, naturellement, le parti Renaissance, qui est le grand perdant, perdrait. C'est-à-dire qu'en 1968, après les événements de 68, en effet, de Gaulle a fait une dissolution, mais simplement cette dissolution, il était attendu qu'elle lui convienne. Effectivement, il y avait eu un tsunami en son soutien. Là, s'il y avait des élections législatives demain, naturellement, le grand perdant, encore une fois, serait le parti Renaissance, qui est très, très affaibli, puisque les deux tiers des cadres, qui est son électorat, rejettent cette réforme des retraites, et que les deux tiers des sondés veulent que le mouvement se poursuive. Et donc on est dans cet état de fait, en effet, que Macron, qui est soutenu par le monde de la finance et le monde des retraités, c'est-à-dire en fait par le monde des rentiers, ne correspond pas à l'attente des gens. Et l'on voit bien qu'il est tellement déconnecté qu'il a donné une interview très récemment à PIF Magazine. Moi, de mon temps, c'était Roudoudou. Il aurait pu donner une interview à Roudoudou, si Roudoudou existait encore, pour signifier à quel point il était déconnecté de la profonde colère et de la profonde et du sérieux qui était cette crise de la démocratie qu'il veut ignorer. Et donc, on voit bien, en effet, que c'est un homme qui ne suit plus, qui n'est plus dans son siècle, qui n'est plus dans son époque, qui n'est plus auprès de son peuple et qui méprise son peuple, en tout cas, en s'amusant à donner une interview à PIF Gadget.
Peut-être une première réaction de David Lesnard. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des maires de France et maire de Cannes. Sur ces gagnants, si gagnants il y a dans une telle crise et cette montée finalement du Rassemblement national, comment vous l'expliquez ?
Je partage ce regard, cette analyse. J'ai envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que le perdant, c'est le pays aujourd'hui. Et le pays est perdant parce que, d'une part, on voit bien que la retraite par répartition liée aux paramètres du nombre de cotisants, de montant des cotisations, de montant des pensions, etc., renvoie à des réalités comptables qui nécessitent de l'ajuster pour le prolonger. Et moi, je parle de pyramide de Ponzi, parce que je crois que ce système ne pourra pas fonctionner compte tenu des réalités démographiques et économiques dans la durée. Et on en a fait un totem. Et d'autre part, on ne propose aucune espérance en face. Parce que ce qui est quand même très caractéristique de ce moment, de cette crise politique, là, qui à mon avis est d'ailleurs bien plus révélateur d'une crise plus grave, c'est que la majorité est déstructurée, éclatée, mais les oppositions aussi. On a eu dans le passé des crises politiques avec des alternances, voire des alternatives possibles et crédibles. Et aujourd'hui, on est dans une crise bien plus profonde, puisque même si le Rassemblement national, d'un point de vue technique, semblerait gagnant dans l'immédiat, dans la réalité, il n'a pas gagné en crédibilité sur sa capacité à bien diriger le pays. Donc tout l'enjeu, c'est de ne pas simplement porter des alternances potentielles ou de surnager dans des crises. C'est d'apporter par la constance de conviction une potentielle alternative. Et ça, c'est un travail bien plus profond.
On a parlé du Rassemblement national. Yvan, comment s'en sort la NUPES ?
La NUPES montre son vrai visage. Enfin, c'était un visage que personne n'ignorait pour ceux qui suivaient la NUPES depuis longtemps. Mais c'est un visage qui est assez répulsif, dans le fond, pour ceux qui, en tout cas, n'adhèrent pas précisément à la violence théorisée par la NUPES. Parce que ce n'est pas simplement une violence ponctuelle, c'est une violence théorisée. C'est une violence qui a ses concepteurs. Il y a notamment un Suédois qui a donné des conférences très récemment à Paris pour dire qu'en effet, aujourd'hui, la non-violence n'était pas un usage politique et qu'il fallait passer maintenant par l'action violente. Et donc la NUPES est ceci. Et la NUPES montre qu'elle sait s'allier maintenant, non seulement à l'islam politique quand il s'était agi en 2019, en novembre 2019, de manifester au nom de l'islamophobie avec tous les radicaux islamistes, et l'on avait vu cette manifestation de la honte, mais l'on voit maintenant que la NUPES également veut s'allier avec ce que j'appelle moi les cagoulards, les néo-cagoulards, les néo-fascistes, les fascistes, c'est-à-dire tous ceux qui sont cagoulés, les antifas, les black blocs, tous ceux que l'on a vus à Sainte-Soline notamment, et également soutenus par les nouveaux écologistes, qui ont prétexté effectivement de protester contre cette tenue d'une réserve d'eau, franchement insignifiante comme prétexte, pour semer une guérilla urbaine, une sorte de répétition générale d'une violence très surjouée, mais c'est une violence qui n'a pas d'assise populaire. C'est-à-dire que la NUPES se montre dans sa grande fragilité, car en effet, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ce n'est pas elle qui récolte. Alors certes, il y a un électorat encore stable qui se retrouve dans sa radicalité, que l'on peut voir à travers notamment les positions de la CGT, etc. Mais quand Gérald Darmanin pointe le danger que représente la NUPES aujourd'hui, il a raison, sauf que quand Gérald Darmanin, ce matin encore sur Europe 1, dénonce le terrorisme intellectuel de la NUPES, il arrive bien tard, parce que moi je me souviens de Gérald Darmanin cautionnant le terrorisme intellectuel, Gérald Darmanin et le monde politique de la majorité en règle générale, cautionnant le terrorisme intellectuel consistant à faire croire que le danger était du côté de l'extrême droite. C'est-à-dire que pendant des années, le discours commun a été d'aveugler sur le danger représenté par l'extrême droite et même le danger représenté par le terrorisme d'extrême droite. Il y a eu, au point que le parquet antiterroriste a suscité un procès sur un groupe terroriste d'extrême droite qui s'appelait les Barjols. Nous en avions parlé au moment où le procès se déroulait. Le jugement a été donné et le jugement fait rire parce que la majorité de ceux qui étaient inculpés ont été relaxés, et que tous ceux qui avaient fait de la préventive ont été relâchés. C'est-à-dire que les faits étaient tellement ridicules, cette bande de pieds nickelés était tellement grotesque qu'en effet, la justice n'a pu que conclure que ce mouvement terroriste prétendument d'extrême droite n'existait pas. Et de fait, aujourd'hui, l'extrême droite, si on avait à la définir, d'ailleurs elle n'est pas définie, en tout cas devient un mouvement résiduel. Et en revanche, et Darmanin et le gouvernement et tous les autres ont fait croire que cette extrême droite-là était un danger au point de solliciter, dans le fond, les votes de l'extrême gauche et de la NUPES, puisqu'en fait c'est bien la NUPES qui a ramené ses voix lors de la présidentielle au président de la République, en laissant entendre qu'il fallait faire barrage à cette extrême droite-là, qui serait une extrême droite fasciste. Non, encore une fois, et là je me répète, mais les fascistes sont aujourd'hui à l'extrême gauche.
Vous partagez ce constat, David Lisnard, c'est-à-dire cette déclaration d'ailleurs de terrorisme intellectuel et qui est alimentée par Jean-Luc Mélenchon, c'était ce matin sur Europe 1 bien sûr, mais également sur CNews,
oui, mais c'est
ministre de l'Intérieur. Enfin,
ce qui est dit est sourcé, hein, c'est une évidence. Il y a une mouvance intellectuelle qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de domaines qui veut déconstruire, détruire, qu'on retrouve dans le wokisme, etc., que l'on retrouve aussi dans une extrême droite qui existe quand même, hein, il faut le dire, et qui s'attaque à l'individu non pas pour ce qu'il fait mais pour ce qu'il est, ça s'appelle le racisme, qui est une abjection, et donc toutes ces forces identitaristes au mauvais sens du terme, elles sont contraires à mon sens aux valeurs de la France.
Véronique Jacquier, on revient sur cette crise politique. La grande question qu'on se posait dans ce premier édito, c'est à qui profite la crise ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez un gagnant là-dedans ?
Non, moi, je ne vois que des perdants. Je suis d'accord avec David Lisnard. Le grand perdant, bien entendu, c'est la France. et ce sont les Français. Pourquoi ? Parce qu'on vit un véritable psychodrame avec cette réforme des retraites alors qu'elle ne règle rien et que le champ de la capitalisation a été complètement abandonné et n'a même pas été évoqué. Parce qu'il y a de vrais sujets pour l'avenir de notre pays qui ne sont jamais évoqués, quels que soient les partis d'ailleurs. L'intelligence artificielle, par exemple, avec son lot de possibles propagandes et son lot de risques pour la démocratie, ça ne fait partie d'aucun programme politique. Il y a bien entendu la crise de la natalité qui est un corollaire de la réforme des retraites qui n'est toujours pas sérieusement abordée, même par le Rassemblement national qui bien entendu capitalise sur cette crise, mais enfin le Rassemblement national sur la réforme des retraites, il n'a qu'à proposer la retraite à 60 ans, c'est quand même un peu faible. Il y a bien entendu pas de consensus politique sur une véritable politique d'immigration, comme on le voit par exemple au Danemark et en Suède. Et puis bien entendu, rien sur la question de la souveraineté propre à la France et la question de la souveraineté politique et énergétique qui implique de penser sur le temps long. Là, tous les partis politiques en ce moment sont aux abonnés absents. Et puis si on prend un sujet qui ce soir est d'actualité, c'est-à-dire la Convention citoyenne sur la fin de vie, alors là, en revanche, la Macronie est à l'œuvre pour constitutionnaliser ces sujets, que ce soit l'IVG ou que ce soit la fin de vie, où on va avoir sans doute un projet de loi qui va en découler. Alors qu'on a interrogé à peine 140 ou 170 citoyens sur le sujet. Et que vous avez l'ensemble des soignants qui sont contre. Voilà. Donc voilà où on en est. On a un gouvernement qui nous donne le sentiment d'avancer, mais moi j'ai plutôt le sentiment qu'on recule.
Vous avez parlé du Rassemblement national. Vous avez parlé de la NUPES, de la majorité. Ça ne va pas plaire à David Lisnard. Vous n'avez pas encore parlé dans cette crise politique, si gagnant il y a, des Républicains, Yvan Réoufol.
Je m'en excuse auprès de l'éditeur, mais dans ma photographie, je ne vois pas les Républicains apparaître. Et je ne vois pas pour l'instant, mais peut-être allez-nous convaincre, je ne vois pas de quatrième voie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'instant pour les Républicains à côté de la NUPES, à côté de Renaissance et à côté du Rassemblement national. Non seulement il n'y a pas de place, mais on a vu que les Républicains s'étaient déchirés devant nos yeux, puisque certains d'entre eux ont voté la censure et d'autres ne l'ont pas voté. On peut imaginer que s'il y avait un référendum d'initiative partagée, les Républicains se déchireraient encore davantage pour savoir s'ils auraient à soutenir cette réforme des retraites ou au contraire à la rejeter. Et l'on voit que, et Retailleau le dit bien dans le fond, qu'il y a un manque de travail idéologique, il y a un manque... il faut qu'ils renouvellent leur logiciel afin d'avoir une pensée qui soit en tout cas une pensée cohérente. Et cette cohérence-là échappe pour l'instant en tout cas à l'observateur que l'on est, que je suis. Et donc on se demande bien entendu ce que les RN vont pouvoir devenir. Sachant qu'une partie des RN est également très une partie des LR, c'est mon lapsus, sont en effet très réticents à rejoindre le Rassemblement national qui se pose malgré tout, enfin c'est comme ça que je le vois maintenant, comme étant le socle qui pourrait théoriquement rassembler toute cette droite qui est aujourd'hui dispersée. Donc il sera intéressant de savoir si vous soutenez encore ce cordon sanitaire ou si vous le trouvez utile ou si vous êtes prêt dans le fond dans le cadre d'une précipitation d'élection, à jouer une union nationale qui consisterait, en l'occurrence, dans le fond, à aller à Canossa, c'est-à-dire à accepter une main qui pourrait être tendue, si du moins le Rassemblement national sort de son bunker, parce qu'il y a aussi quand même un enfermement intellectuel du Rassemblement national que je ne nie pas, si le gouvernement national acceptait de tendre des mains.
Il faut que je réponde rapidement à ça.
On y reviendra en deuxième partie, je vous rassure.
Si vous voulez, là-dessus, moi, je ne raisonne absolument pas comme ça. Je pense que, de toute façon, les circonstances du pays, la déliquescence est tellement prononcée qu'il faut absolument arriver, et la politique, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est de recréer une espérance. Aujourd'hui, une absence d'espérance. On le voit bien sur les retraites. Je parle, moi, de sado-réformisme. On dit aux gens, ça va être douloureux, mais il faut le faire. Sans montrer la finalité, c'est même pas une finalité comptable, puisqu'on a vu qu'on ne répondait pas à une finalité comptable. Donc, pour parler clair, moi, tout ce que vous dites là, tous ces plans fictionnels, me paraissent beaucoup trop compliqués. Je crois qu'à un moment donné, il faut arriver avec ce que l'on est, avec un corpus, avec une densité. C'est ce que n'a pas su faire LR, ce que nous n'avons pas su faire, parce que je fais partie de ce parti, et on l'a vu à la présidentielle, on part de 4,70%. Et soit on arrive à montrer que nous redevenons audibles, nous redevenons crédibles, donc nous redevenons éligibles, soit on n'y arrive pas. Mais l'enjeu, c'est pas LR. C'est pas ça l'enjeu, c'est même pas la droite. L'enjeu, c'est de recréer une dialectique démocratique, alors sans être pompeux, un vrai débat politique, de recréer même, moi je dis, un espace public démocratique d'alternatives fortes, respectueuses des autres, mais crédibles. Aujourd'hui, tout ce que vous me dites, vous me parlez du RN, vous me parlez de la NUPES, vous me parlez du camp du président de la République, pour moi, c'est du social-étatisme. C'est 40 ans de politique à différents degrés qui distribue de l'argent, qui crée de la dette, qui plombe les générations futures et qui nous conduit dans le mur. Donc, ce mur, soit on le conduit avec, dans la violence, soit on le vit dans la violence, et j'ai souvent comparé cette période à la fin de Louis-Philippe, soit on essaie de retrouver un clivage civilisé, un affrontement civilisé entre un mouvement social plutôt de gauche, ou appelons-le différemment si on veut, un mouvement de droite porté sur la liberté de création, sur l'autorité de l'État, sur l'unité de la nation. Moi, c'est pour ça que j'ai créé mon parti politique qui s'appelle Nouvelle Énergie, c'est pour pouvoir, de façon claire, affirmer toutes ces convictions, ces principes, d'avoir des principes, puis les décliner ensuite en projet quand il le faudra. Et ensuite, soit on arrive à recréer un mouvement, soit on n'y arrive pas. Mais moi, si vous voulez, les combinations RN, machin, En Marche, ça ne m'intéresse absolument pas, quoi. Autrement, j'aurais choisi une autre voie que celle de rester maire.
On y reviendra.
On y reviendra, évidemment. La deuxième thématique, c'est la réforme ou non de la Ve République. Il ne nous reste que quelques minutes avant la publicité.
Oui.
Mais à invité exceptionnel, on bouscule un peu notre émission, cher Yvan. C'est-à-dire qu'on va tenter de synthétiser en quelques minutes.
Alors, en quelques minutes, oui,
cette question. Est-ce qu'il faut réformer la Ve République ?
Il faut réformer la Ve République. C'est-à-dire que cette crise de la démocratie, elle se voit à cette violence qui descend dans la rue parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer autrement. Et donc, cela pose un problème, naturellement, ne serait-ce que pour ceci. Donc, il faut essayer de comprendre quelle est la source aujourd'hui de cet autoritarisme d'État qui fait que vous avez beaucoup de citoyens qui ne se reconnaissent plus ni dans leurs représentants, ni même dans leur président. Parce qu'il y a un rejet du chef de l'État qui devient un rejet qui pose un problème à quiconque veut bien regarder. Mmh. Et donc, moi, il me semble que la source, effectivement, vient de, non pas de la Ve République elle-même, mais en tout cas, de la confusion qu'il y a entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif à partir du moment où, en 1962, le président de la République a été élu au suffrage universel, c'est-à-dire que le roi est devenu le Premier ministre. Et d'ailleurs, le président de la République préside le Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'il y a une confusion, dans le fond, des fonctions entre le président, je résume, entre le président et le Premier ministre, bien qu'il y ait un Premier ministre fantoche, mais on voit bien aujourd'hui que ses rôles sont très déséquilibrés. Il y a une sorte d'anomalie institutionnelle au cœur même des démocraties européennes. Et donc, c'est ceci qu'il faudrait essayer de corriger. Et je prends, il y avait un papier très intéressant d'un jeune historien des institutions qui s'appelle Philippe Fabry, dans le Figaro Vox de cette semaine, qui disait que notre constitution ressemble plus à celle de la Russie de Poutine. Il faudrait s'interroger de savoir si effectivement il n'aurait pas raison, si l'illibéralisme n'est pas au cœur même de notre Ve République, et effectivement de pouvoir poser des solutions à ce cas-là.
La question est importante. Vous êtes en train de me dire que il faudrait supprimer la fonction de président ou pas, Yvan ?
Je suis en train de vous dire que si le président de la République qui s'achemine maintenant vers une chiracisation de son mandat, c'est-à-dire de ne prendre que des décisions apolitiques en gérant l'eau, en gérant la santé, etc., aurait au moins un grand sujet d'intérêt général qui serait de démocratiser la démocratie. Donc je n'ai pas la prétention d'apporter, je ne suis pas constitutionnaliste, je n'ai pas la prétention d'apporter une solution, mais ma pente en effet serait pour écouter davantage la société civile, serait pour être davantage d'horizontalité, serait pour davantage de participation, et moi je ne verrais aucun inconvénient en effet à supprimer le président de la République, ou en tout cas à le supprimer de son élection à suffrage universel. Ça a été un ajout, dans le fond, à la Ve République. La Ve République de 58 ne prévoyait pas cela. Et afin, effectivement, de donner de l'air à tous ces citoyens qui, pour l'instant, trépignent et sont prêts à tout casser si, vraiment, ils n'arrivent pas à se faire entendre.
Et là, je m'adresse au président du groupe politique Nouvelle Énergie, David Lisnard. La Ve République, il faut aujourd'hui faire peau neuve.
Bon, je vais essayer d'être court, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un hyper-présidentialisme qui est une exception. J'ai lu ce papier que vous évoquez tout à l'heure. Mais vous savez, la dégénérescence institutionnelle, et on l'a connue dans les années 30 sous la Troisième République, qui était parlementaire et très forte. On l'a connue à la fin de la Quatrième, dans un régime totalement parlementaire. Donc il est évident qu'on doit régénérer nos institutions, mais en retrouvant de l'équilibre et surtout en retrouvant le... Alors ça fait là aussi un peu un télo, mais la subsidiarité qui vient du thomisme, hein, et qui est en fait la notion de responsabilité au plus près du terrain. et ensuite que l'État se recentre sur ses fonctions d'ordre public, vienne a posteriori et non pas a priori entraver ceux qui agissent. On peut le détailler très concrètement pour montrer que c'est ça qui va permettre de renouveler notre démocratie. Mais les débats sur les institutions parfois cachent le débat essentiel sur l'état de la société. Sur l'état, une république, c'est aussi une praxis, comme disaient les Grecs. C'est-à-dire, c'est une façon de voir son... C'est culturel. C'est une façon de se comporter en tant que citoyen. Pour moi, nous sommes dans une crise civique majeure. Et à ce titre, vous pouvez refaire les règles du jeu tant que vous voulez. Si les joueurs sont mauvais, si les joueurs n'ont pas de talent, si les joueurs n'intéressent plus personne, et si plus personne n'a envie de s'intéresser au jeu, le problème est bien plus lourd. Donc, tout cela nécessite des réflexions plus pointues. Je ne suis pas pessimiste, on est dans une crise très grave, très lourde, mais la France a tout pour rebondir aussi. Et à mon avis, les institutions de la Ve République, si on retrouve le sens de l'article 34 de la Constitution, si on retrouve le principe de subsidiarité qui est dans la Constitution, dans l'article 72, on peut retrouver l'efficacité. Et il y avait, je termine, un petit paradoxe dans ce que vous disiez, parce que vous disiez à la fin, donc hyper pouvoir hyper présidentiel comparé à Poutine, enfin, il le dit dans le papier, hein, l'historien que vous citez, et ensuite vous dites chiraquisé, qui est un petit peu synonyme sur le deuxième mandat de non-action. Il y a un peu un paradoxe, sur que soit le président a un vrai pouvoir politique, soit il ne l'a pas. Mais on ne peut pas dire qu'il a en même temps une absence de pouvoir et trop de pouvoir. Et je crois que notre problème aujourd'hui, c'est que l'impuissance publique qui est liée à la bureaucratie, c'est l'hypercentralisation qui pose problème aujourd'hui, parce qu'elle coûte cher aux contribuables. Elle enlève de l'efficacité et elle ne donne pas un sens commun. Donc c'est tout cela que l'on doit revoir, mais à vos dispositions pour en parler longuement.
La publicité, on revient dans un instant, on aura tout notre temps dans la deuxième partie de Face à Rioufol. Voilà, tout de suite. On poursuit Face à Rioufol dans un instant avec comme invité exceptionnel David Lisnard, président de l'Association des maires de France, président du groupe politique Nouvelle Énergie et maire de Cannes. Mais d'abord le point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
Opération apaisement pour Elisabeth Borne. Dès demain, la Première ministre va multiplier les rencontres avec les responsables politiques. Mercredi, elle s'entretiendra avec les organisations syndicales et patronales avant la nouvelle mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites. Des consultations boycottées par la gauche. Tentative d'incendie à la sous-préfecture de Brest. Le bâtiment a été pris pour cible hier soir puis ce matin, sans occasionner de dégâts matériels ni de victimes. Une enquête a été confiée au service local de la police judiciaire de Brest et de Quimper. Et puis en Russie, explosion dans un café de Saint-Pétersbourg. Un blogueur militaire russe de 40 ans a été tué dans le nord-ouest de la Russie. Au moins 25 personnes ont été blessées, 19 sont hospitalisées. Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame a été provoqué par un engin explosif.
La seconde partie de Face à Rioufol, toujours avec Yvan, bien sûr, Véronique est présente, et David Lisnard, président de l'Association des maires de France, président du groupe politique Nouvelle Énergie et maire de Cannes. Et il y a aussi cet ouvrage qui est sorti en 2023 de Quentin Auster, Le réveil de la droite, et si c'était lui. Yvan, c'est à vous pour l'interview.
J'aimerais tout d'abord avoir votre diagnostic sur ce que nous vivons actuellement. Est-ce une crise sociale? Est-ce une crise politique? Est-ce une crise démocratique? Est-ce une révolution? Comment voyez-vous ce moment-là?
Les trois crises que vous avez évoquées sont réelles. Je pense qu'on est vraiment dans une crise civique et je crois qu'on est dans une crise de système. En 1958, il fallait en finir avec le régime des partis, puisqu'il n'y avait plus de véritable alternative politique, il y avait des arrangements. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut en finir avec le système des technocrates, si je devais le dire de façon assez simpliste. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, quelles que soient les alternances, les politiques sont assez molles et se ressemblent, et que finalement le choix démocratique se réduit. Nous sommes dans une crise civique qui se traduit par des taux d'abstention records à toutes les élections, qui se traduit au-delà de l'abstention par une atonie, une indifférence parfois, qui est peut-être la chose la pire, qui se traduit aussi par de la violence, qui est souvent proportionnelle à la vacuité du propos, la violence sur les réseaux sociaux, du dénigrement, de la violence physique, on l'a vu avec les pratiques d'extrême gauche que vous soulignez tout à l'heure. Donc, face à cela, la démocratie étant le pire des systèmes après tous les autres, disait Churchill, notre devoir, quand je dis notre, c'est de citoyen, hein, notre devoir civique est considérable. Et il faut y remédier de façon circonstancielle, conjoncturelle, en rétablissant l'ordre public. Ça, c'est la condition sine qua non de toute liberté, de toute expression, de toute civilisation digne de ce nom. Mais c'est bien plus profond. on est face. Il faut. Je parlais d'espérance tout à l'heure, c'était pas anodin comme terme. C'est quand l'espoir disparaît que. Et c'est toute la tradition d'ailleurs chrétienne et gaulliste, que l'espérance peut poindre hein, quand on n'y croit plus. Donc cela renvoie à la nécessité de retrouver de la force dans la constance pour pouvoir savoir être efficace dans les circonstances.
Mais plus concrètement, vous avez été connu en 2020 par un papier que vous aviez fait dans le Figaro pour dénoncer lors de la crise du Covid les excès de la bureaucratie. Et la bureaucratie est un de vos axes politiques avec l'incivisme. Mais tout ne se réduit pas à un excès de bureaucratie. On peut vous suivre naturellement là-dessus, bien volontiers même, ni à l'incivisme. Est-ce que je ne vous entends pas vous inquiétez plus davantage, effectivement, de ce problème que nous avons abordé, de cette incapacité qu'ont aujourd'hui les Français à se reconnaître dans leurs représentants. D'où vient ce problème de non-communication, dans le fond, et qui pourrait en être les responsables politiques, s'il y en a ?
D'abord, tout est lié. C'est-à-dire que, puisqu'on est aujourd'hui le jour anniversaire de la mort du président Pompidou, la bureaucratie, c'est quand même le deux cordiens qu'il faut trancher. Parce que si vous voulez retrouver de l'efficacité régalienne, alors, on est le pays quand même qui dépense le plus. Nous avons le record de la dépense publique, le record des prélèvements obligatoires. Et on n'a jamais autant eu de services publics et aussi peu de services publics sur le terrain. Jamais autant eu de fonctions publiques avec très très peu de services publics de proximité. Ce qui délite véritablement la nation, c'est un facteur de délitement national très fort. Des zones rurales qui se sentent abandonnées, des quartiers urbains qui se sentent eux-mêmes lâchés. C'est très important. Or, pourquoi on dépense plus ? Avec des fonctionnaires qui sont de bon niveau, qui sont honnêtes, qui sont bien formés, on peut se comparer avec le reste du monde, mais qui sont moins bien payés qu'ailleurs, alors qu'en tant que contribuables, nous dépensons plus. Nous avons moins en tant qu'usagers, nous avons plus en tant que contribuables. Bien, ce nœud gordien, c'est un excès de bureaucratie qui fait que l'on surréglemente, que l'on surtranspose les textes européens, que l'on est dans une approche verticale qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'hyper-présidentialisation. Le code de l'urbanisme faisait 600 pages en 1982, il fait le 3600 pages aujourd'hui. Depuis 2012, il a augmenté de 50% encore. Le code de l'environnement faisait 100 000 mots il y a 10 ans, il fait 1 million de mots aujourd'hui. Je peux vous dire que je reprends ma casquette non plus de président de parti, mais de président des maires de France, donc de façon transpartisane, tout le spectre politique. Tous les maires vous le diront, de gauche, de droite, de zone urbaine, rurale, etc. Nous sommes étouffés par cette bureaucratie. Moi, je l'ai vécu en entreprise, je le vis encore plus dans une mairie. Et ce n'est pas abstrait, parce que ça crée de l'injustice, ça crée de l'inefficacité, ça détruit des libertés, ça amplifie des fractures. Ensuite, le grand défi, c'est un défi éducatif. La France, aujourd'hui, le déclassement éducatif du pays, le fait qu'on soit dernier au classement de PISA, le fait qu'on soit au classement TIMSS aussi dans les derniers, que les évaluations de l'éducation nationale nous placent en total déclin, devrait être un sujet majeur. Or, ça, c'est pas la faute des autres. C'est notre responsabilité. Et donc, la France doit avoir l'ambition d'être une superpuissance éducative et culturelle. Les Finlandais ont réussi, les Suisses réussissent, les Coréens du Sud réussissent, l'Allemagne a su rebondir, l'Angleterre y arrive. Pas plus sot, idiot que les autres. Et donc, tout cela part de la performance publique. Et on a opposé en France, de façon, à mon avis, un peu absurde, la performance et les grandes visions, les grands idéaux. Il faut une vision, il faut des principes, il faut une France souveraine, vous le disiez tout à l'heure, il faut une France qui se projette, mais vous ne pouvez pas le faire sans un appareil d'État performant. Donc c'est fondamental. Vous pensez que c'est la 23e loi sur l'immigration qui va régler le problème de l'immigration ? On va avoir une loi sur l'immigration, ça ne changera rien. 23e loi depuis 86.
Précisément.
C'est dans l'exécution des choses qu'il faut aller.
L'ancien ambassadeur, M. Brochant, je connais bien, sur France Culture hier, et il a fait le lien très osé pour un ancien ambassadeur, un lien que je soutiens, entre l'asphyxie des services publics et une immigration de peuplement qui n'a pas financé préalablement ces services publics et qui vient pour en profiter. Est-ce que vous feriez également ce lien également dans l'asphyxie des services publics avec cette immigration de peuplement-là ?
Ambassadeur et ancien patron de la DGSE.
Et ancien patron de la DGSE,
Un homme absolument. Brillant. Ce que dit Pierre Brochant, c'est qu'on a une immigration massive, et là-dessus il a raison, on n'a jamais eu autant d'immigration qu'actuellement, et que cette immigration, pour des raisons sociales notamment, est très consommatrice d'espace public, donc elle engorge les services publics. C'est une part d'explication. Moi, je voudrais juste vous interpeller aussi sur le problème de l'émigration, dont on ne parle jamais. C'est-à-dire le nombre de talents, et pas simplement de jeunes diplômés, très diplômés, qui partent, qui aiment la France, mais qui au bout d'un moment se disent « Pourquoi revenir dans un pays en tel désordre ?» où on stigmatise, où on culpabilise la réussite, ou le mérite, mais aussi des jeunes autodidactes, qui sont des débrouillards, qui sont souvent des très bons patrons, des patrons de PME ou des patrons de grandes boîtes, qui vont ailleurs pour monter des restaurants, des établissements, et qu'on ne voit plus ou qu'on voit de moins en moins. Ça, ça devrait nous interpeller. Nous avons tous les atouts en France pour rebondir. On a, notre pays est véritablement pétri d'une grande histoire. On a de grands chercheurs, encore aujourd'hui, mais ils s'en vont. L'émigration, le départ de nos mathématiciens, de nos start-up, on a plein de start-up formidables en robotique, on n'a pas un ETI en robotique. On les trouve en Angleterre, on les trouve au Japon, on les trouve en Chine, on les trouve aux États-Unis. Il est là le problème. Donc, c'est bien au-delà du peuplement. Oui, il y a une problématique d'immigration et il faut, évidemment, dans l'intérêt réduire, même des immigrants...
Il faudrait la réduire de combien ?
Pierre Bonchand, il faut diviser par 10, je sais pas, c'est diviser par 5. Qu'importe, il faut une immigration choisie. C'est un des grands droits d'un peuple que de choisir son peuplement. Ceci étant, et c'est même l'intérêt des immigrés, qui viennent souvent pour des bonnes raisons. C'est-à-dire soit pour fuir la guerre, soit pour chercher la prospérité. Et beaucoup d'immigrés cherchent, contrairement à ce qu'on pense, ne cherchent pas forcément un tuyau social, autrement ils n'iraient pas en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs. Hein. Mais la quantité d'immigration depuis quelques années ne permet plus l'assimilation, ne permet plus la transmission d'un substrat. Et quand vous avez à la tête de l'État des personnes qui ne croient plus en la culture française, qui vous disent que la culture française n'existe pas, comment voulez-vous accueillir, transmettre et respecter non seulement l'idéal des Capétiens, mais l'idéal des Républicains ? La République française, c'est une République qui assimile et qui transcende les origines. Et c'est en ça qu'elle est grande. Et aujourd'hui, il faut retrouver ce grand idéal républicain.
Véronique Jacquier.
On partage votre constat sur l'hyperbureaucratie, mais concrètement, comment lutter contre ce fléau auquel se sont habitués les Français ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous réduisez le nombre de fonctionnaires, mais encore ?
Là aussi, attention aux artefacts.
Oui, je fais exprès de vous provoquer sur ce sujet-là. Il y a deux grilles de réponse.
D'abord, on n'est pas condamné à surtransposer en droit. Aujourd'hui, plus l'État est défaillant dans sa capacité a posteriori à sanctionner ceux qui trichent, plus il j'allais citer le Pompidou, mais plus il entrave a priori. Hein. Plus il est défaillant a posteriori dans ses fonctions régaliennes, plus il entrave a priori. C'est-à-dire que l'usage et l'abus sont liés. Et parce que certains abusent et qu'on n'arrive plus à la réprimer, on pénalise l'usage et on multiplie les schémas directeurs. Donc il faut en cesser. Il faut en finir avec tous ces schémas directeurs. Avec, lorsque vous voulez prendre une règle d'urbanisme aujourd'hui, dans la même journée, on vous dit zéro artificialisation nette en application de la loi climat et résilience. Il n'y a pas un autre pays qui fait ça. L'Allemagne ne fait pas ça. Donc vous ne pouvez plus utiliser un foncier, mais parallèlement, on va vous dire il faut réindustrialiser, donc il faut du foncier, et il faut faire des logements sociaux. Donc ce que je puis vous dire, c'est que c'est dans la pratique. C'est comme, alors les entreprises y arrivent parce que les grandes entreprises ont ces effets de bureaucratie. Mais ces grandes entreprises sur ces effets de bureaucratie, elles sont obligées d'avoir des résultats. Le problème, c'est qu'on a dilué les responsabilités. Donc il faut retrouver un régime de responsabilité qui fait quoi ? Et cela passe très très concrètement par un travail de décodification. Il faut repartir des grandes dispositions d'ordre public. La loi doit être rappelée, les grands objectifs d'ordre public, les grands objectifs environnementaux qui sont ceux de l'époque, comment lutter contre la part anthropique du réchauffement climatique. Mais ensuite, le pouvoir de réglementation, il doit être laissé aux collectivités territoriales qui doivent être même en émulation entre elles, doivent être comparées. Dernier point, vous allez vite comprendre. Il y a eu 3 impôts locaux supprimés depuis 20 ans. Taxe professionnelle, taxe d'habitation et maintenant la CVAE. Pourquoi pas si on avait baissé les prélèvements obligatoires ? On a supprimé ces impôts locaux. Il n'y a jamais autant eu de prélèvements obligatoires, d'impôts et de charges. Sauf qu'on a enlevé la responsabilité fiscale aux élus. Donc, qui sont obligés eux-mêmes de demander à l'État des financements que l'État lui a promis qu'il ne donne pas aux collectivités. Donc, on crée un système social-étatiste en permanence. On crée un système qui fait de la norme, qui fait de la règle, qui fait de la paperasserie, qui fait de la bureaucratie. Tous les schémas. On va aujourd'hui demander les documents d'urbanisme des communes doivent respecter les SCOT, les PLU doivent respecter les SCOT. Je le dis toujours parce que c'est vrai. Les PADD, les PDM, les SRADET, et j'en oublie une dizaine. Alors, c'est sûr que c'est pas grand public, mais quand beaucoup de Français subissent cette bureaucratie, on est dans la République des SERFA, on passe notre temps, on l'a vu au moment du Covid, quand même, ce pays délirant où nous passions notre temps à nous auto-attester pour aller sortir le chien. On allait sortir 10 fois le chien parce qu'on voulait sortir. Et on faisait en papier parce qu'on se disait ça se voit moins, c'est moins stocké que sur nos smartphones. On était le seul pays à faire ça. Oui. Pour les sapins de Noël, on avait quand même des ministres ou des hauts fonctionnaires qui nous disaient voilà ce qui est essentiel. Donc les boulons étaient essentiels. On pouvait aller faire du bricolage, mais on ne pouvait pas acheter des bouquins ou des chemises.
Et on, il on, a
une
interministérielle pendant deux semaines pour nous autoriser à acheter des sapins de Noël, mais pas les boules de Noël. Nous l'avons vécu.
Oui.
Et ça, ce n'est pas une fatalité française.
Voilà. Vous avez parlé de déliquescence de la société. C'est peut-être une manière de ne pas vouloir oser parler de décadence de la société. Mais c'est une déliquescence des élites de la société ou c'est une déliquescence de la société entière? Comment voyez-vous les responsabilités les plus hautes?
Il y a une interaction, si vous voulez. Comme je l'avais dit une fois pour paraphraser de façon... C'est pas terrible, mais Simone de Beauvoir, on ne l'est pas élu, on le devient. Alors, après, on a des élus de mon niveau, des fonctionnaires de mon niveau, des patrons de mon niveau, mais on voit bien qu'on manque d'une espérance commune. Et cette décadence ou cette déliquescence, aujourd'hui, c'est une spirale infernale qui part du fait qu'on a de moins en moins de responsabilités claires dans les organisations, qu'on doute de ce que l'on est, et c'est pourquoi je pense qu'on est dans une crise qui est bien plus profonde qu'une simple crise organisationnelle. C'est une crise de sens. C'est une crise...
Civilisationnelle ?
Oui, civilisationnelle. C'est certainement une crise spirituelle. Je le crois profondément. Une spiritualité laïque, une spiritualité du 21e siècle. Après, la spiritualité, les autres sont très importantes et elles sont liées d'ailleurs, mais elles relèvent de l'intime. Mais aujourd'hui, et nous avons tout pour retrouver une ambition. Je crois qu'on est capable de retrouver le sens du temps long si on porte des objectifs. Vous voyez, on parlait de retraite tout à l'heure. J'ai essayé d'apporter le débat de la capitalisation, de dire que contrairement à tout ce qu'on nous raconte, les travailleurs les plus pauvres auraient intérêt à ce qu'il y ait dans leur cotisation une part de capitalisation. Il faudrait, pour amorcer le système, il y a un système d'amorçage et il y a plusieurs propositions qui sont faites, mais on n'augmenterait pas les cotisations. Donc il n'y aurait pas plus, il n'y aurait pas une perte de pouvoir d'achat, mais on permettrait à des individus, notamment à revenus faibles, d'être propriétaires d'une part de leur retraite. Ça change tout. Et de pouvoir récupérer ce capital. Ça fonctionne aux Pays-Bas merveilleusement bien. Au Danemark, ça fonctionne dans la fonction publique, ça fonctionne chez les pharmaciens. On ne peut même pas poser ce débat parce qu'on est dans du théâtre politique, parce qu'on est sur l'anathème. Et ça nous aurait permis de créer un vrai fonds souverain. Alors, vous voulez faire BlackRock? Non, un fonds souverain français qui nous manque 100-120 milliards pour capitaliser nos entreprises, c'est-à-dire investir. Et là, on pouvait trouver une ambition sur l'intelligence artificielle pour ne plus être la colonie numérique de la Chine et des États-Unis. Trouver une ambition environnementale, énergétique, décarbonée, pour reprendre les mots de l'époque, etc. Mais portons cette espérance. Votre responsabilité est engagée aussi à vous, enfin, médias, c'est-à-dire de porter... Je suis parti à l'étranger, en Ukraine, pour on parlait de palmade. Je dis, mais pourquoi on parle toujours? Quand on en parle le premier jour, je veux bien. Je reviens une semaine après, on parlait de palmade. Vous comprenez, à un moment donné, l'agenda, il faut le faire aussi autour des enjeux qui concernent nos enfants, nos petits-enfants.
Le temps file, pardon de vous interrompre. Vous l'auriez voté, cette réforme des retraites?
Dans le schéma, j'ai répondu clairement à cette question. Oui, je l'aurais voté, parce que dans ce schéma étroit, permettre de gagner encore 7-8 ans sur la répartition, on ne peut pas être contradictoire. Un parti politique qui disait qu'il fallait mettre la retraite à 67 ans. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique toutes les nuances et les subtilités, mais en 6 mois, dire qu'il faut passer de 67 ans à 60 ans ou à 63 ans, voilà, c'est trop compliqué pour moi, c'est trop subtil. Oui. Mais bien évidemment, ne pas se laisser enfermer dans ce carcan, dire qu'on devait porter autre chose, une autre ambition, de même qu'on avait voté, moi j'ai jamais été parlementaire, hein, mais que les parlementaires de droite avaient voté sous François Hollande des lois contre le terrorisme, on ne peut pas reprocher à l'époque à LR d'avoir été pour François Hollande, de même que là on ne peut pas reprocher à ceux qui ont voté d'être pour Emmanuel Macron. Tout ça, c'est de la petite politique. Donc, mais en revanche, si on reste étroit, si on reste étriqué, si on ne porte pas cette espérance écologique, économique, d'une croissance par la liberté, d'un ordre public dans l'exécution des choses et de retrouver une ambition culturelle autour des grandes œuvres de l'esprit, de transmettre les grandes œuvres de l'esprit, de faire de la culture française un élément de rassemblement de tous les Français.
Parlons un peu des LR, parce qu'il ne nous reste plus que 3 minutes. Pardon parlons de vous bousculer. Vous avez laissé comprendre que vous raisonniez sur le temps long, dans le fond, en disant que les LR pourraient rejouer à nouveau un jeu s'ils arrivent.
LR ou autre chose.
Ou autre chose. Mais là, on est dans l'urgence. Et donc, s'il y avait des élections, si le président de la République devait se retourner vers le peuple, en tout cas pour demander l'avis des Français, et s'il y avait effectivement cette majorité qui semble se dessiner dans les sondages d'une majorité portée par le Rassemblement national, encore une fois, est-ce que vous seriez d'accord dans l'urgence, encore une fois, pour participer à une sorte d'union nationale auprès du Rassemblement national?
Je n'accepte pas cette dialectique.
répondre à ça, c'est la meilleure façon de faire gagner le Rassemblement national. Ce qu'il faut, c'est proposer des convictions qui sont les nôtres. Moi, ce n'est pas celle du Front National ou du Rassemblement National, et ce n'est pas celle d'Emmanuel Macron. Donc, je ne ferai rien d'autre que de porter les convictions qui sont les miennes, quitte à être au départ minoritaire dessus. Mais les convictions qui sont les miennes sont celles d'une France forte, d'une France qui s'industrialise, d'une France qui enfin s'attaque à la matrice des dépenses publiques. Tout à l'heure, on a 35%
de back-office administratif. Vous ne pourriez pas le passer à une droite à reconstituer dans l'urgence ?
Mais ça, cette question-là révèle, je crois, une sorte de fantasme, quoi, qui, à mon sens, n'est pas bon. Pourquoi aller vers une droite sociale, libérale, techno, qui pourrait être celle, je ne sais pas moi, d'Edouard Philippe ou d'autres, ou une droite Rassemblement National qui veut faire la retraite à 60 ans dont on ne comprend rien sur la position sur l'Europe, qui se planque sur les retraites, parce que c'est un peu ce qu'on a vécu là. Moi, ça ne m'intéresse pas, si vous voulez. Moi, je suis un citoyen engagé. Je crois profondément, et c'est trop court pour en parler, à une matrice d'alternatives qui je ne retrouve pas, ni chez Emmanuel Macron et tout ce qui tourne autour de lui, y compris les anciens LR, ni au Rassemblement National. Je pense qu'on peut à nouveau être audible et montrer une crédibilité pour redresser la France sur des principes simples de liberté économique, d'ordre public, d'unité civilisationnelle et culturelle.
Mais vous vous donnez combien de temps ? Encore une fois, vous raisonnez sur le temps long. J'imagine que
Que la force des convictions et des projets permet d'être très fort dans les temps courts, dans les circonstances. Il va y avoir beaucoup de circonstances évolutives dans les prochains mois. J'en suis absolument convaincu.
Vous pensez être prêt pour 2024 ? Pour 2027.
Pour 2027. Non, mais être prêt. Ceux qui pensent qu'ils sont toujours prêts, quelle ambition. Mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on doit être capable de gouverner le pays. Et je crois qu'à LR, il y a à la fois des talents individuels et je souhaite que cette décomposition se termine et qu'il y ait vraiment un corpus idéologique très fort. Vous citez Bruno Retailleau, il a raison de le dire. François-Xavier Bellamy a raison de le dire. Éric Ciotti a raison de le dire. Maintenant, il faut que les gens sachent, ils savent très bien que les circonstances changent. Mais il faut qu'ils disent, on croit en leurs principes. Voilà. On sait qui ils sont.
Vous serez candidat à la présidence de la République ?
On parlera de tout ça plus tard. Ces questions-là, si vous dites oui, on vous prend pour un falabra que personne ne me connaît. Et si on dit non, on ne vous invite plus, vous ne pouvez plus faire entendre vos idées. J'ai compris le système médiatique. J'essaie, si vous voulez, avec nouvelle énergie, avec des gens très bien qui me rejoignent, de créer une dynamique et de retrouver une alternative crédible autour des valeurs qui sont les nôtres et qui sont un substrat hérité du libéralisme, du gaullisme, de la social-démocratie chrétienne et qui peuvent être très modernes dans le XXIe siècle, qui peuvent remettre l'individu au service du collectif et d'une spiritualité commune. C'est une belle ambition. Puis après, on verra. Et justement, vous voyez, cette question que vous posez, elle pose tout le problème de la Ve République. C'est-à-dire que tout tourne autour de cette élection présidentielle.
Bien d'accord.
Tout le monde ne rêve pas d'être ministre ou président de la République. En revanche, participer au redressement du pays et penser à nos enfants, c'est plutôt une belle ambition.
C'était une émission passionnante. Merci beaucoup Yvan, merci Véronique, merci David Lisnard, président de l'Association des maires de France, président du groupe Ton Politique Nouvelle Énergie, maire de Cannes. Je regardais, vous avez été réélu maire de Cannes en 2020, dès le premier tour, à 88% des voix.
88,12%.
Alors moi j'ai eu 0,08.
Ah, c'est peut-être ça alors, je me suis joué.
Mais vous avez fait de la ville de Cannes une ville attractive, prospère, sécure.
C'est une merveilleuse ville, c'est une ville très contrastée. On a un taux de pauvreté bien supérieur à la moyenne nationale, mais c'est aussi une ville prestigieuse avec des quartiers très contrastés, logements sociaux, etc. Et ce qu'il faut, c'est arriver... Il y a plein de gens qui ne sont pas du tout de mes convictions, qui sont de gauche, qui sont plus de droite. Mais en revanche, on a une belle équipe et on essaie de... Enfin, on fait ce que l'on dit et avec simplicité. Et je crois que c'est pour ça que c'est difficile de répondre à toutes vos questions. C'est dans l'exécution des choses.
Oui, pardon, on vous a pressé un peu.
Non, mais c'est dans l'exécution des choses et c'est pas forcément...
Mais Paris, par exemple, vous imaginez un jour vivre à Paris ?
J'ai déjà vécu à Paris.
Merci à tous les trois. L'info se poursuit sur CNews.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan,
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.